Une dernière chose avant de commencer sur l'horaire. Si vous regardez l'horaire, l'agenda comme on vous l'a donné, comme je vous l'ai dit ce matin, nous avons un collègue qui est coincé à Francfort, donc cela prend un peu de temps pour qu'il arrive jusqu'ici. Nous avons dû changer les choses un peu. Et c'est pas exactement ce que vous avez vu sur l'horaire. Et donc maintenant, on va parler des développements récents dans le DNS.
Give us just 1 minute.
Une minute, s'il vous plaît.
Okay.
Bonjour, je m'appelle Michelle Jordan et je suis la gérante pour la communication des nouveaux GTLD. Cette session focalisée sur les nouveaux GTLD, sur le nouveau programme. Mais on a changé un petit peu la présentation, donc on va parler maintenant des développements récents dans l'espace des nouveaux domaines. Ça inclut aussi les IDN. Je vais vous donner un résumé un peu sur les noms de domaine. Certaines informations sont un peu basiques pour certains d'entre vous, mais peut-être pas tant que ça. Si vous êtes nouveau dans cette communauté, on a parlé des noms, les noms de domaine internationalisés, et on va vous donner une idée d'où aller obtenir plus d'informations. Et regardons d'abord l'Internet comme un écosystème qui évolue et qui évolue très vite. Au début, en 69 et 72, c'est là que tout a commencé avec ARPANET et les courriels. C'était juste quelques ordinateurs qui se parlaient sur un réseau. Et ce qu'ils ont utilisé pour communiquer, c'était des adresses IP et c'était une série de nombres, de chiffres comme 192.0. quelque chose. C'est pas toujours facile de se rappeler de ça. Donc, plus de gens sont arrivés pour être en ligne et pour se connecter entre eux. Et on a donc réalisé très vite que l'on avait besoin d'une façon plus facile, un système plus facile à utiliser. C'est là que le DNS est arrivé. Donc, en 91, on a eu le WWW. Et dans les années 90, c'est clair que les connexions sans fil ont commencé. Les moteurs de recherche sont arrivés sur la scène. Yahoo, je crois, a été créé en 95. Google en 98. Les gens commençaient à partager de la musique, des images, des photos et des vidéos entre eux. C'est là que les réseaux sociaux sont arrivés. Et dans les années 2000, les réseaux sociaux sont vraiment devenus importants comme celle-là maintenant. Les gens ont commencé à connecter sur l'Internet avec leur téléphone portable. Il y avait donc des IP comme Skype où les gens peuvent se parler et se voir. Et maintenant, on est déjà en 2012, mais qu'est-ce qu'on va avoir dans le futur? On pense que le GTLD et le nouveau programme IDN vont être les choses qui vont arriver dans le futur. C'est le futur. On regarde un peu l'anatomie d'un nom de domaine. On va détailler ce nom de domaine en plusieurs parties. Vous voyez la partie www.meeting. Meeting, c'est le troisième niveau d'un nom de domaine. ICANN sera donc le deuxième niveau et .org sera donc le premier niveau. Donc, quand on parle des nouveaux GTLD et de ces programmes, quand on parle d'IDN, on parle de premier niveau des noms de domaine. Nous sommes ICANN et si vous n'avez pas encore, ne vous êtes pas rendu compte encore, nous adorons les acronymes. OMG, oh my God, on adore les acronymes. GTLD, cela veut dire nom de domaine générique de premier niveau. C'est aussi une extension, un fil. C'est la partie qui est à la fin du nom de domaine. Les CCTLD, c'est le code de pays des domaines de premier niveau. Même dans les nouveaux programmes GTLD, les applicants ne sont n'ont pas la possibilité d'enregistrer un TLD de deux lettres parce que cela est réservé au code de pays IDN. Cela veut dire nom domaine internationalisé. Vous avez déjà vu cette diapo, mais on va la regarder encore. Vous voyez la bulle sur la gauche, tous les TLD existants. Il y en a à peu près 21 dans la racine. Et avec le nouveau programme GTLD, on pourra en voir des centaines de plus dans l'avenir. Des choses comme .marque, .communauté. On a mis ça sur notre site le 13 juin. Vous voyez donc toutes les possibilités qui vont peut-être venir. Et sur l'autre bulle, vous voyez les CCTLD. Maintenant, avec le procédé Fast Track, le voie rapide, nous avons vu un énorme montant de CCTLD. Vous voyez que maintenant, on peut les avoir dans leur caractère qui correspondent à leur langage local. On en parlera dans une minute. Ça, c'est une période de temps. Avant l'ICANN, ICANN a été créé en 98. Donc, avant cela, il y avait déjà des tas de GTLD et des noms de domaines .com, .gov, .edu, .ord, .org, et comme la plupart de tous les CTTLD aussi déjà. En 2000-2004, nous avons eu des essais pour introduire de nouveaux GTLD dans le système, le DNS. Et le procédé voie rapide, donc Fast Track, pour les pays, les territoires, pour qu'ils puissent utiliser leur langage. Pour utiliser les langages qui sont basés sur d'autres scripts que la base latine, donc d'autres alphabets, pardon, qui ont pu donc commencer en 2009 à utiliser leur langage et leurs alphabets. Et en mai 2010, nous avons vu le premier ADN, CCTLD, qui est rentré dans la racine. En attendant, le bureau a approuvé le travail pour les nouveaux CCTLD, donc il y a eu donc un guide qui a été composé. Chacun de ces guides a été mis posté donc en ligne pour qu'il y ait des commentaires publics qui soient dressés. Donc on a eu donc refait le guide. Après cela, on a eu des essais en 2008 et jusqu'à en 2011, pardon. Nous mettons toujours à jour ce guide périodiquement. Nous faisons des mises à jour tout le temps. Nous en avons fait une encore en juin, au début de juin. Ce guide pour les demandeurs ont été approuvés et c'est là que la campagne a été lancée. La fenêtre de demande de nouveaux GTLD est ouverte le 1er au 12 janvier, a fermé à la fin de mai, et le 13 juin, nous avons diffusé les liens, les nouveaux fils en alphabet ASCII et en alphabet IDN. On va regarder donc, on va passer au sujet des IDN. Les IDN, ce sont donc les noms de domaine qui représentent les alphabets locaux. Donc, l'introduction des IDN nous ont permis de passer, comme vous voyez, les TLD sur l'écran, .cn, est encore là. Mais si je tape sur mon clavier chinois, le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quand j'arrive au domaine de premier niveau, je peux commencer à mettre de l'alphabet, je dois mettre de l'alphabet latin. Donc avec les IDN, nous pouvons mettre l'URL entier dans le langage local. Donc c'était vraiment une étape importante pour faire que l'Internet devienne vraiment une chose globale. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, la voie rapide a été lancée en novembre 2009, et ce processus a donné la possibilité aux pays, aux territoires d'utiliser des alphabets différents de l'alphabet latin. Et en mai 2010, le premier CCTLD a été délégué à une racine. Et comme vous voyez, vous en voyez quatre là. Des statistiques rapides sur IDN, il y en a 41 jusqu'à présent dans la racine. Et de ces 31, cela donc représente 13 alphabets différents et 15 langages différents, 15 langues différentes. Donc on va parler maintenant des domaines de premier niveau générique nouveau. Quel est le programme? C'est une initiative qui va rendre possible l'introduction des noms de domaines premier niveau générique illimité dans l'alphabet latin ou les alphabets IDN. Pourquoi a-t-on fait cela? Parce que ICANN a été créé pour augmenter le choix et la concurrence dans l'espace de domaine et aussi pour créer une plateforme pour l'innovation. Il y aura des tas de modèles de commerciaux qui vont en sortir, différents fils qui vont permettre des nouvelles manières pour les organisations pour qu'elles puissent faire leur marketing, pour avoir de nouvelles voies, pour que les communautés se rassemblent, se retrouvent. Des tas de choses intéressantes vont en résulter. Pour aussi incorporer des ensembles d'alphabets au premier niveau pour rendre les choses donc encore une fois plus globales. Quelques statistiques rapides sur les nouveaux GTLD. Nous avons reçu 1930 demandes d'inscriptions et de ces demandes, 1146 ont été considérées comme des demandes de normes et 84 venaient de communautés et 66 étaient des TLD géographiques. 116 étaient des demandes IDN, demandes de... Donc 230 fils avaient un demandeur ou plus. Donc ils sont vraiment trouvés en contentieux puisqu'il y avait plus d'un demandeur. Et donc cela concerne .home, .inc et .art, .app. Voilà, donc vous avez les régions et le nombre de demandes par région sur l'écran. Et le même diagramme dans le coin, vous verrez les bulles qui montrent combien d'applications de demandes sont communautaires, combien sont celles qui sont géographiques, combien des demandes c'était des IDN. Vous voyez comment elles se superposent. C'est intéressant de voir comment elles se superposent. Voilà, donc on vous a parlé de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Maintenant, on va vous parler de ce qui va arriver, de ce qui va se passer dans le futur. Donc, on va le jour la révélation. On avait la fin de la période de demande. C'est là où tout le monde pouvait venir sur le site, pouvait faire des commentaires sur toutes les demandes. Ces commentaires ont été fait passer à tous les panels différents et ont été considérés pour évaluer les demandes qui ont été faites. Et aussi, on a eu une période d'objection. Il y avait 4 sujets sur lesquels les gens pouvaient être objectés. Il y avait la confusion, les droits légaux, les objections communautaires, etc. Il fallait pouvoir passer par là pour pouvoir avoir une objection formelle. Cette période avait aussi un temps limite. Nous avons annoncé que nous allions interrompre le processus de batching. Et la période de commentaires est ouverte pour 60 jours, donc elle va se terminer le 12 août. Il y a beaucoup plus de choses qui vont se passer après le 12 août et qui n'est pas inscrit sur cette diapo. Où est-ce que vous pouvez aller pour trouver plus d'informations? Allez sur le lien nouveau GTLD, newgtlt.icann.org. C'est là où vous trouverez la plupart des informations. Tout ce dont vous avez besoin est sous la section programme status, l'onglet programme status. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur une demande. Vous pouvez faire aussi du suivi. Et vous pouvez aussi apprendre plus sur le processus de des objections. Et vous pouvez avoir aussi quelques statistiques. Et en dessous, l'onglet qui dit « About », vous pouvez apprendre des informations sur les IDN. Si vous regardez sur le site et que vous ne trouvez pas l'information sur la réponse que vous cherchez, vous pouvez aller au centre client, service client, et on vous répondra. Et aussi à Twitter et Facebook. Vous pouvez nous suivre. Il y a des sessions cette semaine auxquelles vous pouvez assister lundi, donc demain. Il y a une mise à jour des nouveaux programmes de GTLD. Cela vous donnera une mise à jour de ce qui se passe dans ces programmes depuis la Réunion de Costa Rica. Et aussi, vous pourrez aller à la session pour le planning de la nouvelle ronde de nouveau GTLD. Et ça commencera maintenant. Enfin, donc, la planification pour cela commence maintenant. Donc, il y aura une session là-dessus demain. Et mercredi, vous aurez aussi une session pour les résolutions des nouveaux, les objections des disputes avec les nouveaux GTLD. Les gens qui s'occupent de cela seront là pour vous, pour répondre à vos questions. Ensuite, nous aurons deux sessions sur la protection des droits, les mécanismes de protection des droits et aussi sur les comportements. Et nous aurons aussi une session qui s'appellera suspension des uniformes rapides. Et jeudi, vous aurez aussi une session sur les variances des IDN, mise à jour des programmes TLD. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous avez déjà une question qu'on avait posée tout à l'heure. Je suis un ancien boursier ICANN. Est-ce que ICANN peut diriger, faire une demande pour que les coûts soient conservés au minimum ? Pour les demandes, les applications, les applicants des communautés. Est-ce que vous pouvez répéter la question pour être sûr? Si je comprends bien la question, on parle du contrôle du prix ou du coût au niveau registrant-registre. De la part du registre, on n'a pas d'information, on n'a rien à y voir. Des fois, les registres distribuent des TLD à travers des enchères ou sous d'autres formes. C'est eux qui mettent à jour leur propre prix, qui mettent en place leur propre coût, leur propre prix. Du côté des registrants, au niveau des registrants, ça n'a rien à voir. Ça vaut pas le coup de mettre un contrôle de prix parce que les registraires différents ont des modèles commerciaux différents. Par exemple, certains registraires ont juste des noms de domaine, rien d'autre. D'autres registraires, automatiquement, ils ont un certain nombre de kilobits pour mettre votre site web. Donc, le prix ne serait pas le même dans cette situation. Donc, il y a un autre point à faire, c'est que le but de la mise en place d'un système avec les registraires, c'est pour améliorer la concurrence. Donc, c'est une concurrence libre entre les différents registraires qui poussera à ce que ces registraires puissent se permettre d'offrir les meilleurs prix à leurs clients. Prochaine question à voir avec ce qu'on veut dire par les TLD communautaires. C'est TLD. Les demandeurs peuvent faire des demandes pour des TLD communautaires. Si quelqu'un fait partie d'une certaine communauté spécifique et qu'ils ont un soutien dans cette communauté précise, ils peuvent faire une demande pour cette TLD. Cela vient avec des restrictions additionnelles, supplémentaires, parce qu'ils doivent dire exactement quelle communauté ils représentent, ce qu'ils vont faire avec ce TLD. Mais aussi, pour faire cette demande, on vous donnera donc, dans ce cas-là, une priorité. Disons que deux personnes font demande pour Point Michel, par exemple, et un fait la demande en tant que TLD communautaire. Ce TLD aura donc la priorité vis-à-vis de l'autre. S'ils ont bien sûr rencontré les critères pour faire leur demande. Et en tant que s'il y a un contentieux, ce TLD aura la priorité. On avait une question qui avait été posée tout à l'heure, le soutien des applicants, des demandeurs. Nous avons un programme qui s'appelle le support soutien aux demandeurs, qui est désigné, qui est fait pour aider les pays en voie de développement, pour que eux aussi puissent prendre avantage de ces nouveaux GTLD. Sur notre site web, il y a deux ou trois éléments dans ce programme. Il y a une section pro bono où vous pouvez donc envoyer, si vous êtes soit un demandeur qui demande du soutien ou si c'est une organisation. Vous êtes une organisation qui va offrir du soutien. Il y a donc une page sur notre web, sur notre site web. Il y a dans les deux cas les gens qui veulent du soutien ou qui veulent donner le soutien. Et donc, si vous voulez vous brancher de cette façon-là, vous pouvez obtenir les informations dont vous avez besoin. Et aussi, vous pouvez faire une demande à travers le processus de demande. Vous pouvez demander une assistance financière. Et ce sera aussi efficace pour être là aussi dans les autres, pas seulement au début, mais aussi, je pense que ça va jusqu'à 47 000 dollars. Quelque chose d'autre, oui. La duplication au niveau de la duplicité au niveau de l'internationalisation. .cn et ensuite avec l'alphabet chinois. Comment est-ce que c'est séparé les deux? Comment est-ce que c'est séparé? Je ne sais pas si j'ai très bien compris. Michel.cn par exemple. Michel serait le deuxième niveau et CN.cn serait le premier niveau. Et quand on utiliserait l'alphabet chinois, à ce moment-là, ce serait... C'est totalement séparé. Il ne faut pas faire l'assomption que .cn ou de l'alphabet chinois. Il y a des registraires qui parlent de la loi grand-père. Enfin, je veux dire de patriarche. Ils pourraient, par exemple, donner en tant que registre. Si le régime peut donner une variation de mon nom, je veux dire, j'ai priorité, parce que si vous avez John, par exemple, .com, et maintenant vous pouvez enregistrer John, point, avec l'alphabet que vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se passer si les registres peuvent trouver une façon de mettre en place ce système de hiérarchie, disons. Mais jusqu'à présent, ce sont des choses séparées. Excusez-moi, l'interprète n'entend pas la question. Encore une fois, l'interprète n'entend pas la question. Je ne suis pas sûre de quoi vous voulez parler. Si j'étais Microsoft, je pourrais enregistrer ce nom de domaine .cn ou sinon dans l'IDN concerné. Oui, oui. Quoi? Ils n'ont pas à le faire. C'est leur choix. Oui. Je dois revenir au CCTLD pour un moment. Nous discutions tout à l'heure de la capacité technique et de la robustesse. Il arrive que si un registre est un échec, est-ce que vous préparez des régulations pour assurer un service? Qu'est-ce qui se passe si un registre CCTLD a un échec? Donc, vous parlez de programming. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent dans le monde CCTLD, par exemple, pour le GTLD? Je suis pas sûre que je suis au courant de ça. Il doit y avoir des arrangements qui doivent être faits pour qu'il y ait continuité, pour les problèmes de continuité, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant. ICANN n'a pas un rôle, ne peut pas imposer à ce qu'ils aient une structure mise en place pour cela. Est-ce que c'est leur souveraineté, c'est leur décision? J'ai vraiment besoin d'une compréhension de base sur ce qu'est la connexion interne entre ce que nous discutons aujourd'hui, entre les CCTLD et les noms de domaine. Il y a un réseau entier. Ils font partie d'ICANN, oui, ils font partie d'ICANN. Non, je pense qu'on n'a pas fait cette distinction très claire dès le début. Les dons de domaine générique de premier niveau ont vraiment une relation contractuelle très spécifique avec ICANN. Ces registres ont un contrat avec ICANN et ensuite ICANN a une relation avec les registraires et ensuite il y a un contrat avec les registraires. C'est un monde très mis en place avec des relations contractuelles entre elles. Quand il s'agit des CCTLD pour des raisons historiques avec ce qui s'est passé dans le passé, les CCTLD étaient assignés à certains pays et ICANN avait quelquefois des mémorandums d'accord avec certains pays, mais malgré tout, il n'y avait pas une sorte de contrat avec des règlements de responsabilité comme les GTLD. Donc les CCTLD ont la souveraineté complète, comment ils vont gérer les registres et ce qu'ils vont faire avec, et maintenant et dans le futur. Et on ne peut pas faire interférence avec cela. Je n'entends pas la question. L'interprète n'entend pas la question. Oui, je répète la question pour les gens à distance. Le commentaire, est-ce que cela pourrait avoir un impact important sur la stabilité et la sécurité dont nous avons parlé? J'assume que avec le commentaire, c'est que si vous êtes enregistrant avec une compagnie qui a un nom de domaine, CCTLD, CCTLD échoue, vous n'avez pas les mêmes garanties de continuité dépendant que vous pourriez avoir si vous étiez inscrit avec un GTLD. Ça, c'est peut-être vrai. La plupart des CCTLD ont de bonnes structures et ont des services excellents. Ce n'est pas homogène dans ce monde. Ce n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas d'entité comme ICANN ou autre qui pourrait se mettre donc en place pour assurer une continuité au niveau des CCTLD. Merci Carla. Merci Michel. Nous avons une question supplémentaire et après ça, nous allons faire la pause. Madame Farsi, pour .OM-CCTLD, j'ai une question. Comment est-ce que vous traitez les nouveaux GTLD en termes de new GTLD et IDN, par exemple, s'il y a une demande pour un point quelque chose et un IDN différent? Est-ce que c'est deux demandes différentes ou est-ce que vous donnez le même qui pour la personne qui .om, je suppose que ça veut dire Oman. Est-ce que c'est une demande séparée? Je vais répéter. Je veux bien voir que j'ai bien compris ce que vous avez dit. Je pense que ce que vous demandez, est-ce qu'il y a un registre qui fait une demande, pour exemple, .om en alphabet donc latin et aussi le même CCTLD en chinois ou quel que soit l'alphabet. Est-ce qu'il y a un règlement qui unifie ces deux demandes? Oui, non. Ce sont des applications des demandes séparées. Ce sont donc deux demandes qui sont évaluées indépendamment, qui pourraient coexister, mais ce sont des demandes séparées. C'est une question qui a à voir avec cela? Oui. Durant votre présentation, j'ai vu qu'il y avait une petite mention, les DIDM. Qu'est-ce que ça veut dire en relation avec la question qui a été posé avant GIDN, c'est les IDN génériques, il n'y avait que des IDN CCTLD, les IDN étaient donc seulement disponibles pour les pays et les territoires. Avec le nouveau programme GTLD, nous avons donc des GIDN, donc des IDN qui sont génériques, tout peut devenir donc des IDN génériques, pas seulement pour les pays. Merci. C'était vraiment très interactif, c'est bien. Donc, je pense que le café a fonctionné après le déjeuner. Donc, j'espère que nous aurons encore plus d'interactions tout à l'heure. Nous sommes un petit peu en retard. Si nous pourrions limiter notre pause à 15 minutes et revenir ici, donc, à 3h25. Je sais que c'est fait un peu bizarre, mais donc, on aimerait bien que vous soyez de retour ici à 3h25 pour avoir plus de temps pour pouvoir discuter et apprendre. Félix, je pense que c'était nous.